Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Bénin.
Et le Bénin sous pression sécuritaire dans le Nord, on va en reparler, qui sort tout juste aussi d'une semaine de tensions politiques inédites après des législatives marquées par une forte abstention et des manifestations réprimées par des tirs à balles réelles. 7 morts dans un des pays modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest. Alors, dérive d'un homme, le président Patrice Talon, ou bien colère d'un peuple, dans ce qu'on appelait le quartier latin de l'Afrique à l'époque. Est-ce déjà la fin de la concorde béninoise? On voit ça avec vous, Jean-Claude Félix Tshikaya. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. D'abord, quelques mots de la crise politique. Il y a eu des législatives donc avec 2 partis sur 7 qui se sont présentés, autorisés justement à se présenter. Manifestations, des opposants sous pression, 77% des électeurs restés chez eux. D'abord, c'est tout à fait inédit quand même, cette situation dans l'histoire du Bénin.
C'est inédit, c'est une réponse cinglante, citoyenne, politique et du coup démocratique de la part du peuple béninois. Au regard du chiffre, hein, 77%, c'est une abstention massive, donc une désaffection populaire des Béninois, mais c'est surtout une opposition populaire à cette réforme et à ce maintien de ce scrutin qui n'a rien de démocratique et qui transcende pas seulement l'opposition mais tous les Béninois, parce que 77%, cela veut dire que même les partisans de Monsieur Talon et des partis qui sont quand même qui sont donc ces partis frères et dévoués à Monsieur Talon, le bloc républicain et l'Union progressiste, qui se partagent maintenant un parlement qui va être un parlement entre amis et entre alliés, donc qui retire complètement la substance démocratique du Parlement. C'est une opposition populaire assez formidable et remarquable. C'est encore un autre mode opératoire d'un autre pays africain, l'Algérie un peu plus haut, le Soudan pas très loin, où il y a des modes opératoires de résistance à des pouvoirs qui sont qui vont vers une dérive autoritaire ou une démocrature, où le peuple, pour qu'il y ait de moins de pertes de vie et de blessés, réfléchissent encore plus à une stratégie d'opposition.
Oui, alors qu'on comprenne bien ce qui s'est passé quand même, vous avez évoqué cette réforme, c'est la réforme du code électoral qui était portée par Patrice Talon, mais qu'il n'avait pas décidé lui-même, hein, dont il a hérité. Une réforme qui amène à effectivement valider 2 partis seulement sur les 7 dossiers qui ont été présentés. Comment ça se fait qu'on ait des conditions si restrictives?
Mais c'est des conditions restrictives, il faut un peu se plonger depuis que Monsieur Talon est arrivé donc au pouvoir avec il a rattrapé un retard qu'il avait sur son poursuivant. En tout cas, il est arrivé au pouvoir avec entre guillemets le quitus de 200 partis pour 15 millions de Béninois, 5 millions d'électeurs. Donc il y avait de son point de vue et du point de vue de la classe politique, tout parti confondu, 200 partis, c'est beaucoup trop
un prolifique. Vrai foisonnement, ouais.
Un vrai foisonnement, mais qui peut s'expliquer parce que c'est 3 décennies de démocratie après une conférence nationale qui avait été donc jugée exemplaire et qui a été repris par plusieurs pays africains, mais 200 partis donc. Mais à l'intérieur de ces réformes, cette réforme est inique. Il y a des iniquités, notamment sur le plan financier. Nous sommes passés de 8 millions de CFA à maintenant 200 millions de CFA, ce qui fait à peu près 300 millions d'euros. Donc, il obligeait donc les partis à 300 000 euros, ouais. Excusez-moi. Donc à des coalitions, donc les partis se mettent ensemble, mais il y a de véritables oppositions, et c'était quand même une prime à la finance, une prime à l'économie. Si vous n'avez pas d'argent, eh ben vous ne pouvez pas donc vous positionner, notamment pour les législatives, ce qui obère la démocratie au Bénin.
Oui, ce qui fait que certains opposants ont accusé cette réforme de vouloir promouvoir une aristocratie financière en quelque sorte. Alors, il y a eu également des dénonciations de la part d'ONG et d'Amnesty International d'arrestations arbitraires d'opposants et journalistes ces derniers mois. Les manifestations, on l'a vu, qui ont été réprimées pour une partie à balles réelles, même si le ministre de l'Intérieur a affirmé que c'était des éléments, j'ai plus la citation exacte, mais enfin c'était des actes contraires contraire aux ordres qui avaient été donnés. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce président Talon, élu il y a 2 ans, donc businessman, premier homme d'affaires d'ailleurs, élu président en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il est en train de verrouiller ou est-ce qu'il va trop vite, disons, dans sa volonté de réforme et de réformer ce paysage politique?
Alors son point de vue, en tout cas son slogan premier, c'était la modernisation du Bénin, et aller très vite. Donc avec son côté homme d'affaires, une des fortunes béninoises, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, et même de tout le continent, il croule sous l'argent, ce qui n'est pas une pathologie. Sauf que nous sommes dans un pays où il y a un taux de croissance de 6-8%, donc assez remarquable, mais la pauvreté, la question sociale sont là. Les conditions de vie des Béninois tous les jours ne s'améliorent pas, même s'il y a eu des réformes assez intéressantes de sa part, mais tout de suite, il a verrouillé. Là, les législatives ne sont qu'un point d'orgue au verrouillage non démocratique du Bénin. Donc, les journalistes en ont pris aussi pour leur grade. Hein. Les restrictions des libertés d'expression, les intimidations n'ont fait que se multiplier et se conjuguer. Pareil pour les oppositions. Donc il y a eu un appel, même la communauté internationale, hein, je parle de l'Union africaine, des autres chancelleries africaines, mais aussi au-delà, ont essayé de le faire revenir à la raison démocratique, et il est resté jonché sur ses talons d'un narcissisme. Il a l'impression que le Bénin est une entreprise qui peut mener d'une main de fer. Mais non, c'est un pays qui est jaloux de sa démocratie. Ouais. Et les Béninois lui ont répondu d'une manière spectaculaire.
Et pourtant, un président qui plaisait, hein, et qui plaise sans doute toujours à la communauté internationale, à une partie. La Banque mondiale a octroyé un prêt de 500 millions de dollars au Bénin. Il y a eu cette visite chez Emmanuel Macron, enfin à l'Élysée, récemment, une visite à François Hollande en 2016, une visite à Emmanuel Macron, 5 projets lancés avec la France. Est-ce que Patrice Talon, qui n'a sans doute pas voulu cette crise politique, est capable de la résoudre? Comment faire baisser la tension à partir du moment où cette élection n'a pas été annulée, comme le demandaient les partis politiques
d'opposition? Non, elle n'a pas été annulée. L'annuler aurait pu donc entraver la constitution du Bénin, mais donc il y avait d'autres solutions en termes de droit. Il a maintenu. Il y a eu donc 7 morts, des blessés. Le calme, semble-t-il, est revenu, mais pas dans les consciences des Béninois. C'est un pays très jeune, donc ça fait 30 ans qu'il y a une démocratie. La peur est quand même au ventre et dans les esprits béninois. Beaucoup veulent qu'il y ait une réunion de concorde civile et qu'on revienne pas seulement à un esprit démocratique, mais à une démocratie effective, et remettre en cause ces législatives, cette assemblée nationale qui n'aura plus qu'une assemblée nationale en termes de nom, mais pas dans l'effectivité. Et le fait qu'ils veulent être un président moderne, alors qu'on revient à une attitude que les Béninois avaient connue au temps de Mathieu Kérékou, qui était donc un véritable tyran, et qui aujourd'hui, même Monsieur Yayi Boni, qui donc a laissé la place à Monsieur Talon, et ben Monsieur Yayi Boni ont eu, avec Monsieur Soglo, les deux anciens présidents, ont eu des mots assez forts, parfois même un ton martial, pour essayer de dissuader Monsieur Talon de maintenir ces élections, mais rien n'a fait. Monsieur Talon est resté figé droit dans ses bottes.
Bon, ben à voir si effectivement il amènera lui aussi sa conférence nationale, comme l'avait fait Mathieu Kérékou à l'époque, celui qu'on appelait le caméléon. Dernière chose, la situation sécuritaire dans le Nord. On est dans le parc national de la Pendjari, qui est intéressant relativement au mandat Talon parce que c'est un des parcs choisis pour le développement des méga projets touristiques. Qu'est-ce que ça indique, cet enlèvement de Français? Une zone laissée en déshérence, comme beaucoup d'autres zones frontières dans la région, un manque de sécurité, une négligence?
Oui, je crois qu'il n'a pas pris au sérieux, comme certaines chancelleries africaines, de l'expansion de l'EI, de Boko Haram et de tout ce qui concerne les bandes mafieuses et liées au terrorisme et au redéploiement de l'État islamique et la concurrence qui est entre l'État islamique et Al-Qaïda Afrique. Et le Bénin et le nord du Bénin est donc aux prises avec une insécurité grandissante sur le plan terroriste. Ça descend jusqu'en Afrique centrale. Il y a deux ans, j'avais fait donc un rapport sur les risques terroristes, même en RDC. Il y a eu donc un attentat en RDC revendiqué par l'EI. Donc on voit bien qu'un redéploiement sur le continent africain qui inquiète pas seulement le Bénin. Et d'ailleurs, le fait de désunir une population qui était jalouse de sa démocratie, le fait de désunir dans un contexte socio-économique et géopolitique et géostratégique de cette façon-là, fragilise de manière invraisemblable et volontaire un pays qui a besoin de concorde civile, mais aussi d'une sûreté grandissante.
Non, bah écoutez, à suivre le Bénin toujours, ce risque sécuritaire et crise politique. Merci beaucoup pour vos explications, Jean-Claude Félix Gaillat, chercheur à l'IPSE, Institut de prospective et de sécurité en Europe.